Question d'actualité du vendredi 19 avril, Julien Corona au micro, Daniel Fortin à la réalisation. Aujourd'hui, le sujet, c'est les thérapies de conversion. Pourquoi ce sujet? C'est parce qu'il y a un excellent balado en ce moment qui est disponible sur la plateforme audio de Radio-Canada. Fais un homme de toi à propos des thérapies de conversion. Pour discuter de ça, on reçoit son auteur et son présentateur de ce balado, Jocelyn Lebeau, qu'on a la chance de se connaître aussi un peu dans la vie personnelle. Bonjour Jocelyn.
Bonjour Julien, merci de l'invitation.
Ah, c'est totalement normal. J'ai vu ce balado. J'ai pas eu besoin que tu voyes un peu tes posts sur les réseaux sociaux, ce genre de choses. J'ai vu ce balado, c'est quelque chose qui m'a touché parce qu'on est tous les deux membres de la communauté LGBT. Et c'est quand même un sujet extrêmement intéressant, extrêmement important, surtout que depuis moins de 2 ans, les thérapies de conversion sont interdites. Au Canada, c'est un crime de pouvoir en faire et ça permet de remettre dans le contexte et aussi de renseigner beaucoup de personnes sur qu'est-ce que c'est, parce que c'est quelque chose qui est très peu connu pour beaucoup. On a du mal à un peu cerner, une personne non renseignée va avoir du mal à cerner qu'est-ce que c'est une thérapie de conversion. Donc quand j'ai vu ce balado, je me suis dit c'est important parce que ça fait œuvre de service public. Et ma première question, ça vient, c'est pourquoi est venue cette idée? Et je pense que ça doit être un peu lié à ce genre de choses.
Ah oui, complètement. En fait, l'idée de base est venue après une discussion que j'ai eue avec la directrice de Radio-Canada Audio qui s'appelle Natacha Mercure. Je sais pas si vous aviez découvert cette série-là aussi. Plus tôt, il y a eu Le Village. Oui. C'était Marie-Ève Tremblay qui animait un balado autour d'une série de meurtres d'hommes gays au début des années 90 dans le village gay à Montréal. Et ça m'avait profondément bouleversé. Donc, j'avais dit à Natacha Mercure, j'aurais aimé porter ce genre de série-là parce qu'étant moi-même gay, j'aurais eu une approche probablement différente de celle de Marie-Ève, qui a fait un très bon travail, cela dit, là, mais j'aurais aimé porter ce genre de projet social-là. Et puis, vraiment, quelques heures plus tard, elle est venue me voir à mon bureau, cette directrice, et elle m'a dit, Jocelyn, j'aurais envie de faire une série sur les thérapies de conversion au Canada. Est-ce que tu aimerais porter cette série-là? Et j'ai dit, est-ce que je peux avoir au moins une nuit pour y passer? Parce que j'aimerais voir si je suis la bonne personne. Est-ce que je
suis prête, connecté?
Ouais, exact. Et puis finalement, durant la nuit en question, j'ai pas beaucoup dormi, mais je me suis questionné à savoir est-ce que je serais un bon candidat pour ça? Et la réponse, c'est que moi, j'ai pas vécu de thérapie de conversion, mais durant mon adolescence, on m'avait proposé de suivre ce genre de thérapie qui vise à modifier l'orientation sexuelle ou l'identité de genre de quelqu'un, j'aurais été un bon candidat parce que, j'ose le dire, j'aurais aimé être straight à cette époque-là de ma vie.
On a tous vécu de la pression ou des éléments de contexte, celle de l'homophobie déguisée, par exemple au lycée ou en polyvalente, comme ici. J'entendais en préparation de l'entrevue, j'ai réécouté ton entrevue que tu as fait avec Patrick Lagacé au 98.5, où tu expliquais que ce projet a permis de faire la paix avec toi-même par rapport à ces moments que tu as pu vivre dans ton adolescence. Et ça me remet aussi en contexte et c'est quand même assez important aussi à prendre en compte.
Ah, j'avais vraiment l'impression à l'adolescence de pas être un vrai homme. Vous savez, un peu avec tous les stéréotypes que ça peut inclure. C'est-à-dire que moi, j'aimais faire des arts. J'étais très sensible. J'étais fait tout petit. Je pesais pas 100 livres jusqu'en secondaire 3. C'est comme si j'avais pas le droit. Puis j'étais attiré donc par... En tout cas, je commençais à me rendre compte que j'étais potentiellement attiré par d'autres gars. Puis j'étais là, oh mon Dieu, je serais jamais un homme. J'ai pas le droit d'être ça. Et puis la série, c'est pas pour rien qu'elle s'appelle comme ça, parce que quand on parle de thérapie de conversion, on parle évidemment d'homophobie, de transphobie, on parle d'acceptation de soi, on parle du rapport à notre identité, on parle de croyances religieuses. Donc c'est vraiment plus vaste que juste même les thérapies de conversion en tant que telles.
Et sur l'aspect aussi par rapport à faire un homme de toi, en fait, là je prends l'exemple, c'est que ces gens, on l'entend en plus, ces gens qui vendent ces thérapies, on a l'aspect religieux, mais on a aussi un aspect même médical chez certains, c'est on veut rendre la personne straight, on veut lui permettre d'être un vrai homme, un vrai mâle. Mais pour qu'une personne tombe et se dise « je vais faire ça parce que oui, j'ai envie de devenir comme ça », au-delà de la personne peut être choquée, peut être outrée, peut avoir sa psyché un peu détruite par des choses qu'elle a vécues, c'est que ces promoteurs de ce genre de thérapie, on se rend compte dans ton balado, c'est qu'ils utilisent la vulnérabilité que les personnes peuvent voir et subir au quotidien pour espérer les attirer dans la maille du filet, un peu, hein, j'ai l'impression.
Oui, tout à fait. Moi, ce qui m'a le plus fasciné probablement dans cette série-là, parce qu'on a travaillé pendant plus d'un an avec Philippe Marois qui est à la réalisation, Jean-Philippe Roux qui a fait la recherche, c'est, vous savez, on pensait qu'on allait rencontrer des méchants, c'est des gens qui allaient être des mauvaises personnes et tout ça. Puis finalement, en parlant, ces gens qui ont offert ou qui ont été proches d'organisations qui offrent ce genre de service-là, je le mets en guillemets, c'est fait souvent avec beaucoup de bienveillance. Parce que ces personnes-là n'ont pas nécessairement la même vision.
Ils pensent avoir la vertu.
Peut-être, mais aussi, il y a des convictions religieuses profondes. Par exemple, il y a des gens qui pensent que si on a le démon de l'homosexualité en nous et qu'on s'en libère pas, quand on va mourir, on va aller brûler en enfer pour l'éternité. Et si on y croit sincèrement, que c'est une conviction là, vraiment qui nous habite constamment, je peux comprendre ces gens-là de vouloir essayer changer. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que même si c'est fait avec la plus grande bienveillance, une thérapie de conversion, il y a quelqu'un qui le dit dans la série, c'est une entreprise de destruction massive des désirs et de l'identité. Ça nous apprend à nous détester parce qu'au final, on ne peut pas changer l'orientation sexuelle, l'identité de genre de quelqu'un. Donc, ça a des impacts excessivement importants sur la santé. Il faut savoir que la moitié de ces thérapies-là au Canada se sont déroulées chez des jeunes de moins de 18 ans, donc à l'adolescence, à un moment où on est en train de se définir. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça cause hausse de l'anxiété, hausse des problèmes peut-être de choc post-traumatique. Ça peut avoir des difficultés à entrer en contact socialement. Ça peut avoir des répercussions sur le parcours scolaire et par la suite sur le parcours socio-professionnel. Et ça me brise le cœur de le dire, mais ça fait augmenter les pensées suicidaires. Donc, il y a eu beaucoup de suicides causés par la thérapie de conversion. Donc, il y a probablement beaucoup de gens aujourd'hui qui sont même pas vivants pour nous raconter ce qu'elles ont vécu.
Et aussi, au-delà de c'est quelque chose de criminel maintenant, c'est ce genre de choses, c'est limite de la torture mentale quand on y pense, en fait. Et quand on sait à quel point la population LGBTQ+, sont sensibles à ces éléments de santé mentale, et on voit les chiffres plus forts de suicide dans nos populations, dans notre communauté, c'est quelque chose d'extrêmement important à notifier, à faire prendre en compte aux gens qui ne peuvent pas savoir voir les impacts, ils n'ont pas l'impression de se rendre compte des impacts mortifères de ce genre d'entreprise criminelle, à mon sens, qu'on faut le appeler ça comme ça, et que c'est d'où l'importance en matière de service public que ce balado rend.
Ah ben tout à fait. Puis quand on a commencé à travailler sur le projet, à toutes les personnes à qui on en parlait, on se faisait dire ça a dû se passer aux États-Unis dans les années 1900. Eh ben non, il y a une étude récente qui démontre que 10% des communautés LGBTQ+ au Canada, donc on parle de près de 100 000 personnes qui auraient vécu ce genre de thérapie de conversion chez nous. Donc c'est un nombre vraiment important. Et la plupart des spécialistes et même des victimes qu'on a rencontrées pour le balado nous ont confirmé que ce genre de traitement-là, je le mets encore entre guillemets, était toujours offert par certaines personnes.
Malgré le fait que c'est criminalisé.
Exactement. Et c'est là où je m'en allais parce que j'allais dire que il y a donc 2 ans, en janvier 2022, c'est devenu une loi. C'est officiel, c'est illégal au Canada d'offrir ce genre de thérapie de conversion. Et je tiens à le préciser, cette loi-là, qui criminalise les thérapies de conversion, a été votée à l'unanimité par les élus canadiens. Donc, ça veut dire que autant les libéraux que les conservateurs, autant les néo-démocrates que le Bloc québécois que les Verts ont dit non. Ça ne se passera pas chez nous. C'est une forme de torture. Donc, c'est l'ensemble de la population canadienne qui s'est unie pour valider, en fait, l'expérience que plusieurs ont vécue chez nous. Maintenant, on a une loi. Ça veut dire que si jamais vous êtes témoin de ce genre de pratique-là, il y a des recours qui s'offrent. On peut aller à la police. Les gens qui seraient trouvés coupables peuvent aller en prison, peuvent avoir des amendes très salées. Mais même si on a une loi, il reste quand même un travail de soutien à faire avec les gens qui ont déjà vécu ce genre de pratique-là pour les aider à s'accepter tels qu'ils sont aujourd'hui. Et il y a plein d'organismes d'aide à travers le pays qui sont là justement pour apporter leur soutien aux victimes des thérapies de conversion.
Une personne, un exemple de travail de soutien aussi que ce balado peut faire, tu as plusieurs victimes qui apparaissent dans ce balado qui ont accepté de parler, accepté aussi même de revenir sur les lieux de la thérapie. Je prends l'exemple de Gabriel, qui est revenu sur le lieu de sa thérapie, qui est un peu revenu sur le lieu du crime. C'est lui qui le dit en plus comme ça. C'est là, on voit, il faut de la force. Comment tu as fait pour un peu... Est-ce que c'est lui, de son propre concours, qui a décidé de faire cela dans le cadre du balado, ou vous avez discuté avec lui pour possiblement pouvoir arriver à le faire accepter de revenir sur les lieux de sa thérapie pour ensuite en discuter de manière plus libre?
Ah oui, ben Gabriel est un être absolument extraordinaire. C'est lui notre personnage principal de la série. Hein. Il y a 7 épisodes, puis il revient constamment durant les épisodes. Donc, Gabriel vient d'une famille qui est tombée dans un groupe très religieux alors qu'il approchait de l'adolescence. On lui a proposé de suivre un exorcisme alors qu'il avait 13 ans pour exorciser justement les démons de l'homosexualité qu'il avait en lui. Et il en a même subi 2 autres par la suite de son propre gré. Il a payé avec l'argent qu'il amassait en distribuant les publi-sacs 2 autres exorcismes. Et je vous le dis, ça n'a pas fonctionné. Il est toujours homosexuel. Ouais. Donc, est-ce que c'est lui qui nous l'a proposé? En fait, ça s'est fait en collaboration avec l'équipe de production du balado. On lui a dit, est-ce que serait partant de retourner nous montrer où ça s'est déroulé. Et il a dit oui. On est allé sur les lieux. Puis je vais vous avouer que moi, je suis pas un journaliste. Hein. Je suis un animateur, je suis un comédien, je suis un réalisateur d'émissions de radio. Donc, j'ai pas le côté, très audacieux comme a pu avoir Gabriel. On est arrivé sur les lieux. Lui a ouvert la porte. On est rentré. On est allé. Puis finalement, on s'est retrouvé à une porte fermée, barrée. Mais quand même, dès qu'on a mis les pieds, il a fait... Je me souviens, c'était ici, puis ça me fait peur de revenir ici parce que c'est quelque chose qui m'a vraiment traumatisé. Puis oui, aujourd'hui, c'est devenu un crime de laisser un enfant de 13 ans aller vivre un exorcisme.
Est-ce qu'il y a d'autres récits dans le cadre de ce balado qui t'ont marqué aussi?
Ah, mais tous les récits m'ont marqué. On a rencontré une 20aine de survivants, survivantes des thérapies de conversion d'un océan à l'autre du Canada. Donc, on est vraiment allé à Halifax, à Toronto, à Québec. Et on a eu différentes formes de thérapie qui nous ont été racontées. Là, on parlait de Gabriel qui l'a vécu vraiment dans un camp religieux. Mais on a d'autres exemples. Je pense à Robert, qui est dans le deuxième épisode, qui, lui, c'était avec un psychiatre qui a tenté de régler son problème. Je le mets vraiment de façon en guillemets c'est parce fou. que ça n'a pas fonctionné. Mais ce qui est intéressant aussi dans la série, c'est qu'on démystifie aussi beaucoup de choses en lien avec l'histoire des luttes LGBTQ+. Quand on regarde là, l'histoire récente, c'est assez troublant de se rendre compte que jusqu'au 17 mai 1990, l'Organisation mondiale de la santé considérait que l'homosexualité, c'est un trouble de santé mentale. Ouais. Et jusqu'en 2019, ça fait 5 ans, les identités trans, c'était aussi un problème de santé mentale. Donc, c'est sûr qu'il y a des gens dans le milieu de la santé qui ont essayé, je pense vraiment de bonne foi, d'essayer de régler les problèmes des homosexuels ou des personnes trans. Mais ça a tellement été essayé qu'on sait aujourd'hui que ça fonctionne pas. Et maintenant qu'on sait que c'est pas une maladie mentale, qu'on est comme ça, qu'on est une personne comme ça, puis c'est pas un choix, ben, on peut plus offrir ce genre de service-là parce qu'on sait tous les dommages que ça peut causer.
Et cette volonté aussi, c'est ça, de pas, tu parles des dommages que ça peut causer, mais aussi de pouvoir essayer de comprendre pourquoi ces gens qui font ces thérapies ou qui procurent ces thérapies à des personnes qui les recherchent ou qui malheureusement sont amenées à les faire, peuvent le faire de manière bienveillante. On veut pas les critiquer, on veut pas les être dans le mode, ce sont des méchants, ce sont des odieux. Tu veux essayer de faire comprendre parce qu'il y a un aspect de sensibilisation dans ce balado. Et c'est l'exemple aussi de certains gens d'extrême droite ou de choses qui vont être en mode, les gays, c'est le mal absolu, ce genre de truc, pour après, par derrière, discrètement, rencontrer des hommes et après accepter et se rendre compte que oui, ils sont allés trop loin, ils se mettent à accepter leur homosexualité. Et on voit ce genre de choses et on est là dans la sensibilisation, on veut pas jeter l'opprobre, être dans la confrontation absolue parce que c'est pas comme ça que ça marche et qu'on va sensibiliser les gens à la fin.
Ah ben tout à fait. Puis dans la série, on donne effectivement la parole aussi à des personnes qui n'ont pas du tout la même conception de la vie que moi. Je pense à l'épisode 5, on rencontre Georges qui me dit que selon lui, l'homosexualité, c'est un problème et que je dois guérir ma croix à l'intérieur de moi. Donc, il est très croyant. Mais vous savez, d'avoir eu ce dialogue-là avec quelqu'un qui pense pas comme moi, c'est probablement une des rencontres les plus riches que j'ai faites dans la série parce que je pense fondamentalement à l'importance de dialoguer avec des gens qui ne voient pas les choses de la même manière. Ça nous permet peut-être de faire évoluer notre pensée. Il ne m'a pas fait changer de conviction profonde, mais quand même, je comprends son point de vue. Et cette série-là, elle devient un outil, effectivement, de lutte contre l'homophobie, la transphobie. Et si on veut demander aux gens d'écouter nos histoires d'acceptation de soi, il faut aussi avoir la générosité d'entendre les pensées des autres. Et Julien, j'ai goût de te dire que depuis 10 jours, que la série est sortie, 11 jours maintenant, j'ai reçu, mais tellement de messages personnels via mes réseaux sociaux, ouais, via des courriels, des gens qui me racontent leur histoire, qui me disent à quel point, effectivement, ils se reconnaissent dans la série. Beaucoup de personnes hétérosexuelles qui disent « Oh mon Dieu, je savais même pas qu'est-ce que ça impliquait dans la vie de faire un coming out, par quelle étape on devait passer pour s'accepter tel qu'on est. » Beaucoup de parents qui me disent qu'ils sont témoins de commentaires homophobe, transphobe dans les cours d'école présentement. Donc, d'où l'importance d'une série comme celle-là, parce que c'est prouvé que la meilleure façon de lutter contre l'homophobie et la transphobie, c'est d'entrer en contact avec des gens qui ont une orientation sexuelle, une identité de genre différente de la nôtre, parce qu'au contact de ces autres personnes-là, on se rend compte qu'on est beaucoup plus semblable que différent.
Jocelyn Lebeau, présentateur et animateur de la série Balado « Fais un homme de toi », thérapie de conversion. On peut aussi te retrouver dans plein d'autres programmes sur la première chaîne à Radio-Canada et auprès du diffuseur public. C'est une série balado incroyable de 7 épisodes, une trentaine à 45 minutes en moyenne au total, et je la recommande à tous nos auditeurs. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Jocelyn.
Merci beaucoup, Julien.
Merci à toi, au plaisir. C'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour Questions d'actualité. C'était un plaisir d'avoir été avec vous durant les 2 dernières semaines. Jean-Philippe Tourtier reprend la barre la semaine prochaine. Julien Corona au micro, Daniel Fortin à la réalisation. Passez une très belle fin de semaine dans l'antenne de Radio-VM.